Chapitre 22. Il ne fait aucun doute que le déluge s'est arrêté temporairement, de façon à faciliter l'approche d'Egon Godfrey. Dès qu'il aura trouvé le moyen de pénétrer dans la maison, le grand ordonnateur rebranchera le tonnerre et les éclairs, ouvrira grand le robinet du ciel et noiera le paysage sous des torrents d'eau afin de saluer l'arrivée d'une conclusion violente à la Wagner. Armé de la glacière et d'un sac de toile, Godfrey traverse la chaussée à hauteur de la propriété qui se trouve à trois maisons de celle où Hansel et Claire Hawke se croient en sécurité. De lourds nuages noirs traversent le ciel et la nuit qui tombe prématurément sur Conroe s'assombrit de minute en minute. Le reste découle des recherches qu'il a pu faire dans les banques de données de la NSA et de la longue litanie de ses déductions. Sue Ann McMaster, née Lookman, avant de travailler à la gare routière de Killeen, a été mariée une première fois à Roger John Spencer, avant que ce dernier ne meure dans un accident de la route 8 mois après leur union. La mère de Roger, Marie-Anne Spencer, n'est autre que la responsable de la gare routière de Beaumont, qui a montré à Egon une vidéo d'un couple ressemblant à Hansel et Claire, descendant du car de Houston. Tucker Tredmont, le jeune chauffeur Uber avec ses seins proéminents et son air narquois qui a conduit Egon, Rupert et Vince jusqu'à cette ferme abandonnée, est le fils d'Arnett et Cory Tredmont. De son nom de jeune fille, Arnett s'appelle Lemon. Elle est la fille de Lisa et Carl Lemon. Carl est le deuxième mari de Lisa, qui avait épousé en premières noces Bobby Lee Bricker. Lisa et Bobby Lee, tous deux septuagénaires, ont eu un fils prénommé Lonnie John, qui est non seulement le demi-frère d'Arnett Lemon Tredmont, mais surtout le chauffeur qui a affirmé à Egon, lors d'un interrogatoire sur Skype, avoir embarqué Hansel et Claire Hawke lundi à bord du bus de 10h25 quittant Killeen à destination de Houston. À cette saga s'ajoute Jim Lee Cassidy, l'agent immobilier avenant à cheveux blancs de Killeen. Ce sac à merde prétend avoir vu Hansel et Claire descendre du Mountaineer des Lundgren devant son agence et l'aider à ramasser les documents échappés de son attaché case avant de s'éloigner en direction de la gare des bus. Il est probable que Cassidy est l'auteur de toute cette mystification. Sue Ann McMaster et son mari vivent à Killeen dans une maison achetée par l'intermédiaire de Cassidy, tout comme Lonnie John Bricker. Arnett et Cory Tredmont ont longtemps vécu à Beaumont, où réside toujours leur fils Tucker, avant de s'installer à Killeen dans une maison qui leur a été vendue par l'entreprenant Jim Lee Cassidy. Les liens qui unissent ce dernier au Hawk ont été plus difficiles à découvrir. Il se trouve que Jim Lee a une sœur aînée de 70 ans, Corinna June, mariée à un certain Preston Eugene Fletcher. La sœur jumelle de celui-ci, Posy, est mariée à Johnny Don Ackerman. Le couple a eu 2 filles et 1 fils. Le fils en question, David, aujourd'hui âgé de 42 ans, est médecin de profession, a travaillé au sein de l'unité de sport de combat de Quantico, dans laquelle a été affecté un temps Nick Hawke. C'est même là que Nick a fait la connaissance de Jane. Autant de faits que Godfrey a pu établir avec certitude. Les éléments suivants sont des suppositions. De ses recherches, Godfrey a déduit que Nick et Jane Hawke s'étaient liés d'amitié avec le docteur David Ackerman à Quantico. Suite à la mort de Nick, alors que Jane se lançait dans sa croisade, David Ackerman aura pris contact en toute discrétion avec les parents Hawke en leur proposant son aide. Et Jane se sera portée garante de sa probité. À un moment ou à un autre, il aura été décidé qu'Hansel et Claire pourrait avoir besoin d'un refuge et d'un moyen sûr de rejoindre celui-ci. Les parents de David Ackerman, Posy et Johnny Don, désormais à la retraite, ont fait fortune dans le bâtiment à Conroe, où ils possèdent une grande propriété. Parallèlement, ils disposent d'une maison de vacances en Floride où ils passent une partie de l'année. Qu'ils soient présents à Conroe ou non, ils ont accepté de cacher Hansel et Claire chez eux le jour venu. Il en ressort que jamais les Hawks ne se sont rendus à Killeen à bord du Mountaineer des Lundgren. Ils sont probablement allés à Austin où Kay et Lucy, les sœurs de David Ackerman, les ont récupérés. Kay les aura conduits à Conroe, à 4 heures de route de là, pendant que Lucy déposait le Mountaineer à Killeen, où elle l'a garé devant l'agence immobilière de son oncle Jim Lee Cassidy. Ce dernier n'avait plus qu'à attendre l'arrivée de Godfrey et de ses hommes pour les envoyer chez Suan McMaster, à la gare routière, où ils se lanceraient sur une fausse piste. Le Texas et ses habitants n'existent pas. Il s'agit d'un simple décor. Mais cela n'empêche pas Egon Godfrey de haïr les Texans. Il lui est difficile, en revanche, de haïr le grand ordonnateur, au prétexte qu'il a créé le Texas et les Texans. En fin de compte, toutes ces péripéties ont été imaginées dans le seul but d'assurer le triomphe de Godfrey dans son rôle de héros solitaire. Mais s'il ne hait pas le grand ordonnateur, Godfrey ne peut s'empêcher de s'interroger parfois sur sa santé mentale. La rue est plongée dans l'obscurité lorsqu'il arrive à la propriété des Ackerman. Posey et Johnny Dunn se trouvent actuellement en Floride. Leurs deux filles, Kay et Lucy, sont préposées aux courses afin d'éviter aux Hawks de sortir, au risque d'être reconnues, mais à cette heure, les sœurs seront retournées dans leurs foyers respectifs. Godfrey remonte l'allée conduisant à la maison. Les lumières extérieures, activées par un minuteur, ne sont pas encore allumées, et l'allée est protégée à la vue par une rangée de pins immenses. Tout est sombre et silencieux, si l'on oublie l'eau qui s'égoutte des branches. La maison est protégée par un système de surveillance fabriqué par la firme Vigilant Eagle, mais il ne fonctionne pas. De sa chambre d'hôtel de Beaumont, Godfrey a pu s'introduire sur l'ordinateur central de Vigilant Eagle, ce qui lui a permis d'accéder aux données de la société chargée d'installer le système chez les Ackerman. En quelques clics, il lui a été facile de désactiver l'alarme. Les claviers disposés à travers la maison clignotent comme si de rien n'était, mais aucun signal ne sera transmis au centre de contrôle de Vigilant Eagle lorsque Godfrey pénétrera dans la maison par effraction. Il décide de contourner le bâtiment afin d'en étudier la disposition. Quelques lumières brillent à l'étage et les seules fenêtres allumées au rez-de-chaussée donnent sur l'avant de la résidence. Il ne distingue aucune silhouette dans les pièces qui ne sont pas munies de rideaux. La cuisine, à l'arrière, est plongée dans le noir. En guise de véranda, la maison est dotée d'un vaste patio couvert. Il pose la glacière devant la porte de derrière et tire de son sac un pistolet crocheteur Lockheed. La serrure émettra un faible cliquetis lorsqu'il y introduira son outil et pressera la détente à plusieurs reprises afin d'aligner les pignons. Faute de musique ou de la rumeur d'une télévision, il court le risque d'être entendu. Voyant son hésitation, l'orage reprend. La pluie tambourine sur le toit du patio, et Godfrey sourit. Le tonnerre ne gronde pas encore, mais le crépitement des gouttes d'eau masquera le bruit du pistolet crocheteur. Une mini-lampe à la main, il éclaire brièvement la serrure, introduit l'extrémité du pistolet et l'actionne à 5 reprises afin de libérer le pen. Il range le pistolet Lockheed dans le sac avant de récupérer un taser et un flacon de chloroforme. Abandonnant sac et glacière sur le patio, il ouvre la porte et s'avance dans la cuisine en refermant le battant derrière lui. Le dénouement tant attendu est proche. Il lui suffira d'injecter un mécanisme de contrôle à un seul des beaux-parents de Jane pour savoir où se cachent cette dernière et son petit garçon. Il jette son dévolu sur Hansel. Si Claire est toujours aussi belle que le prétend Lonnie John Bricker, il profitera d'elle avant de l'achever à l'aide de sa matraque télescopique. Ses yeux se sont suffisamment habitués à l'obscurité pour qu'il ne se cogne pas. Sans compter qu'il est le héros d'une histoire dont chacune des scènes a été écrite pour lui. À l'autre extrémité de la cuisine, la porte donnant sur le couloir est entrouverte et une lueur s'en échappe. Il contourne l'îlot central, bercé par le murmure de la pluie dans la nuit et le ronronnement du réfrigérateur. Des chiffres lumineux indiquent l'heure sur l'horloge numérique du four. Il se trouve à moins d'un mètre de la porte du couloir, lorsque le canon glacé d'une arme se pose sur sa nuque. Surpris, Godfrey laisse échapper le flacon de chloroforme. « Lâchez également votre taser, » lui ordonne une voix grave. « Je n'ai rien contre les tâches ménagères, mais je n'ai pas envie d'éponger votre cervelle sur ce beau plancher d'acajou. » Godfrey obéit. « Combien d'autres ?» lui demande l'inconnu.
« D'autres quoi ?»«
D'autres spécimens répugnants de votre espèce. »
« Je suis seul, »
réplique Godfrey, en se demandant comment le grand ordonnateur a prévu de le tirer de cette embuscade, sachant qu'il doit forcément triompher à la fin de la pièce.
« Seul ?» s'étonne l'homme. « J'en doute. »«
Je suis un héros solitaire, »
réplique fièrement Godfrey.
« Comme l'inspecteur Harry ou Shane. »
Son adversaire reste quelques instants silencieux avant de réagir.
« Héros solitaire, mon cul, vous avez tout d'une abeille ouvrière tout droit sortie de sa ruche. »